Vous écoutez, on lit pour vous.
D'autres suggestions pour le 12 août. 12 suggestions de lecture d'Alexandra Mignot et Vicky Sansfaçon, paru le 10 juin 2025 dans les libraires. 1. L'art de patauger dans une tasse de thé, par Vanessa Bergeron, édition Urtubis. Vanessa Bergeron, qui a écrit « Les reflets dans nos miroirs » et l'album jeunesse « Tout ce que je ressens », nous fait voyager au Royaume-Uni dans un charmant périple. Mia y débarque pour 9 mois afin de travailler comme assistante de français. Alors qu'elle s'imaginait vivre cette aventure avec son copain, elle rompt avec ce dernier peu de temps après leur arrivée. Dans la maison où elle emménage avec plusieurs personnes qui deviennent ses amies, la jeune femme est séduite par l'un de ses colocataires. 2. Plume, une histoire d'anorexie, par Pascal Clavel et Gabriel Morisseau, édition Isatis. Plume, 14 ans, voit sa vie s'effondrer lorsqu'Alice, sa meilleure amie de toujours, décide de couper les ponts. L'estime en miettes, elle tente de recoller ses morceaux lorsqu'un coup d'œil dans la glace la confronte à un corps disgracieux qu'elle a du mal à accepter. Dès lors, Plume n'a qu'une obsession, se mouler aux standards de beauté dans l'espoir d'être à nouveau choisie. Prenant la forme d'un journal intime, ce nouvel album de la collection Griffes explore avec justesse et sensibilité le combat d'une adolescente face aux troubles alimentaires. Une lecture qui tend la main au bon moment, informative et sans jugement, pour développer l'empathie et mettre des mots sur des réalités souvent difficiles à cerner. Dès 12 ans. 3. Le temps des sucres, par Martine Desjardins, édition Alto. La sève printanière est cette force bouillonnante qui n'attend que la lame pour jaillir. Mais la forêt, aussi nourricière soit-elle, reste une entité farouche qui exige son dû. Lorsque Guillaume, dernier descendant d'une lignée d'acériculteurs, revient sur les terres familiales après 30 ans d'absence, il est confronté à la brutalité des mœurs et des rites qui l'engluront à la terre de ses ancêtres. Chaque entaille faite dans la chair des érables devra se payer. Le temps des sucres est un retour aux sources, à une époque où les légendes naissaient de la terre et des hommes qui l'habitaient. Un roman envoûtant, sans concession, qui revisite les codes du folk horror pour mieux explorer les dérives de notre société. 4. Tout ce qui nous échappe, par Stéphanie Parent, édition Saint-Jean. Après Flora en éclat et L'amour plein les yeux, Stéphanie Parent récidive avec un roman émouvant qui sonde les choix de vie, l'identité, l'amour et le désir. Adam et Fia vivent une vie paisible avec leurs 2 enfants. Pourtant, Adam a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Il a soif de plus grand. Alors qu'un de ses projets professionnels tombe à l'eau, il frappe un piéton dans un moment d'inattention. Heureusement, ce dernier se remet de ses blessures, mais sa rencontre avec cet homme chamboule Adam, qui en perd ses repères et cherche l'équilibre. 5. Grosse douceur, par Jean F. Boily, édition XYZ. Grosse douceur, c'était le surnom qu'on donnait au narrateur dans les années 1980, au lac Saint-Jean, dans la cour d'école où il était victime d'intimidation. Après avoir traversé les tourments de l'adolescence, il devient un fêtard invétéré. Il nous raconte ses déboires avec l'alcool et la vie nocturne à Montréal, dont celle en restauration. Dans ce récit initiatique désarmant, empreint d'humour et d'intensité, avec en toile de fond l'histoire du Québec, on aborde notamment le rapport au corps, la dépendance et les mauvais choix. 6. Bibitte à sucre, par Élise-André Héroux, édition Édito. Élise-André Héroux, qui a aussi signé 4 Clémentines éparpillées, récemment rééditées en format de poche, propose une autre histoire lumineuse et réconfortante qui fait du bien. Depuis 3 ans, Julie confectionne des pâtisseries dans un café. Ses douceurs lui ont permis de reprendre pied quand elle est devenue sobre. C'est un lieu où règne la solidarité et l'esprit de communauté. Même si elle s'y sent bien, Julie décide de quitter Montréal pour la campagne afin de travailler dans un centre de traitement des dépendances. Bien qu'elle souhaite se réinventer, s'accomplir autrement, elle craint de briser les liens qui l'unissent à son entourage. Les semaines avant ce changement de trajectoire, elle retrace son parcours tout en réfléchissant aux nouvelles perspectives qui l'attendent. 7. L'homme de trop, par Antoine Dion Ortega, édition Tête première. Augustin n'arrive pas à écrire son premier roman. Quand une nouvelle entreprise lui propose une expérience ultra-secrète, soit de publier un livre écrit par une intelligence artificielle sous son nom, il finit par accepter malgré ses réticences. Grisé par le grand succès du livre qui lui permet de devenir une vedette littéraire acclamée, il n'est plus tout à fait le même. Puis, il s'aperçoit qu'un homme le suit, le traque. Inquiet, il essaie de comprendre ce qui se passe, parce qu'il ne veut absolument pas que son imposture soit révélée. Une histoire intrigante se déploie dans ce roman aux enjeux contemporains et aux questionnements éthiques. 8. Les grands mots, par Maude Neveu-Villeneuve, édition La Bagnole. Dans « Le dernier mot », Héloïse devait sauver le journal étudiant avec ses collègues et tombait sous le charme de sa correspondante secrète, Clémence, avec qui elle partageait des lectures. Dans la suite de ce récit d'apprentissage et de quête de soi, l'adolescente découvre que ce n'est pas si simple, l'amour. Surtout qu'elle devra le vivre à distance, comme sa blonde est partie étudier dans une école de théâtre. Alors qu'Héloïse est en secondaire 5, il s'avère difficile de concilier sa vie avec celle de sa copine, comme toutes les deux vivent des réalités différentes. Dès 12 ans. 9. Cap à rien, par J.P. Chabot, édition Le Cartanier. Cap à rien suit Voyage à la villa du jardin secret. Ce nouveau titre contient une portion retranchée et remaniée du précédent. Mais ces romans aux multiples digressions peuvent aussi se lire séparément. Alors qu'il n'enseigne pas à l'hiver 2018, le narrateur part pour la Louisiane avec Laurence, qu'il connaît peu à ce moment, et il nous raconte les pérégrinations de leur voyage, interrogeant notre rapport au territoire et à l'Amérique. La jeune femme lui fait la lecture pendant qu'il conduit sa voiture baptisée Rossinante. Ce périple, c'est aussi une quête de liberté ainsi que le possible début d'une histoire d'amour. 10. Tout ce qui reste, par Suzanne Aubry, édition Stanké. Dans la ville blanche, où l'hiver règne, les livres ont été bannis et la bibliothèque a été condamnée. Des gardiens s'assurent de préserver l'ordre. Bettina, surnommée Betty, âgée de 11 ans, une solitaire, un brin rebelle, elle brave l'interdit pour récupérer des bouquins, notamment, y vit avec ses parents. Quand un jour son père disparaît, Betty quitte la ville et sa mère alcoolique pour partir à sa recherche. Poétique et poignant, ce roman dystopique explore la résilience, l'abandon et la mémoire, tout en rendant hommage au pouvoir des mots et de l'imaginaire. 11. Un été sans pleine lune, par Marie-Ève Brassard, édition Québec-Amérique. En couple avec son chum depuis 3 ans, Emma pensait que ce dernier serait le père de ses enfants. Mais voilà que, sans crier gare, sans qu'elle s'y attende, celui-ci lui annonce qu'il ne veut pas d'enfants. De son côté, elle ne s'est jamais vraiment posé la question. Ça allait de soi qu'un jour, elle serait mère. Mais cette soudaine révélation la pousse à réfléchir à cette grande question, en avoir ou non, à questionner son entourage sur le sujet et surtout à se demander ce qu'elle souhaite vraiment. 12. T'étais où toute ma vie, par Marie Potvin, édition Libre Expression. Dans cette romance, Jeanne refuse de placer Bernard, l'homme qui l'a élevé dans un CHSLD. Avant de mourir, celui-ci souhaite revoir son fils, Nick, qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Ces circonstances permettent à Nick et à Jeanne de renouer alors qu'ils s'étaient brièvement connus plus jeunes. Pendant une colère, Nick avait blessé accidentellement Jeanne, ce qui l'avait poussé à fuir. Attirés l'un par l'autre et malgré la culpabilité que ressent Nick, ils pourraient bien se réconforter et panser leurs blessures, ensemble. C'était d'autres suggestions pour le 12 août. 12 suggestions de lecture d'Alexandra Mignot et Vicky Sans Façon, parues le 10 juin 2025 dans les libraires.
Les travailleurs culturels d'ici réclament des protections contre l'IA. Un texte de Roxane Léouzon, paru le 9 juin 2025 dans Le Devoir. Les artistes québécois demandent au gouvernement provincial et fédéral d'encadrer le développement de l'intelligence artificielle, IA, par les compagnies technologiques. 6 syndicats de l'industrie culturelle ont dénoncé leurs pratiques abusives qui menacent nos emplois, notre culture et nos vies. L'Association québécoise des techniciennes et techniciens de l'image et du son, l'Association des réalisateurs et des réalisatrices du Québec, la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec, la Guilde canadienne des réalisateurs, la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma, SARTEC, et l'Union des artistes, UDA, ont uni leur voix par le biais d'un manifeste intitulé « L'art est humain ». Celui-ci a été lu à Montréal dans le cadre du symposium « Face à l'IA, agir pour l'avenir de nos métiers ». L'artiste ne crée pas par automatisme. Il crée par impulsion, par désir de communiquer à ses contemporains une vision personnelle et unique de notre société, notre existence, notre condition humaine, a déclaré Tania Contoyani, présidente de l'UDA, devant un auditoire de quelques centaines de personnes. L'IA ne fait que se saisir de tout ce qui a été fait auparavant, a-t-elle poursuivi. Elle n'est que la somme de toutes ces visions intimes du monde, qu'elle découpe, émiette et recopie pour les assembler. Ces associations qualifient de pillage et de vol la façon dont les outils d'intelligence artificielle générative sont nourris par une immense quantité d'œuvres existantes trouvées sur Internet, sans que les artistes ne touchent un sou. Chaque jour, des œuvres de créateurs sont usurpées à des fins d'entraînement de l'IA. À chaque instant, images, textes, voix, compositions sont utilisées sans consentement, sans transparence et sans rémunération, a souligné Laurent Dubois, directeur général de la SARTEC. Des œuvres sont générées par l'IA à la manière de plusieurs artistes. Les emplois en culture sont aussi menacés alors qu'on voit apparaître des vidéos produites en tout ou en partie à partir de l'IA, toujours de meilleure qualité. Quand j'entends des producteurs qui utilisent l'IA, la raison qui les anime, c'est la réduction des coûts. Ça permet d'embaucher moins de techniciens, moins de comédiens, moins de musiciens, a déploré M. Dubois. On se bat pour qu'un contenu généré par une IA ne puisse jamais avoir le statut d'œuvre. Le statut d'œuvre doit être réservé au travail d'un humain. Se protéger contre le vol. Le manifeste énonce 7 demandes distinctes visant à ce que ces transformations technologiques se fassent dans le respect des artistes et de leurs droits. Les signataires exigent aussi de la transparence. Ils souhaitent que les entreprises technologiques dévoilent quels contenus ont été utilisés pour entraîner leurs outils d'IA. Selon les signataires, tout contenu généré par l'IA doit être clairement identifié comme tel aux yeux du grand public. On se bat pour qu'un contenu généré par une IA ne puisse jamais avoir le statut d'œuvre. Le statut d'œuvre doit être réservé au travail d'un humain, a ajouté M. Dubois. Les associations estiment également qu'il faudrait renforcer la Convention de l'UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. La souveraineté culturelle du Québec et le français sont menacées, jugent les signataires. On cherche à s'unir avec différentes cultures locales qui ont exactement les mêmes enjeux que notre nation francophone en Amérique, pendant que ces grosses compagnies sont en train de demander à leur gouvernement d'ignorer et de mépriser le droit d'auteur. Est-ce que le combat va être facile? Non, a reconnu Mme Cantoyani. Une démarche qui prend du temps. Le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, était présent à l'événement. Il s'est dit d'accord avec l'ensemble des revendications des artistes. Dans le débat sur l'intelligence artificielle, il y a des gens qui disent que tout encadrement serait un frein à l'innovation. De l'autre, il y a des gens qui disent que ça prend un développement responsable. Le Québec sera toujours du côté des créateurs et des créatrices, a-t-il assuré. Toutefois, comme un projet de loi à ce sujet nécessitera une collaboration avec le gouvernement fédéral, avec d'autres pays et avec des organisations internationales, le processus prendra du temps. Il ne serait donc pas réaliste, selon lui, de tenter d'en déposer un d'ici les prochaines élections provinciales. En attendant, il juge important de conscientiser les Québécois à cet enjeu. La culture, ce n'est pas un bien comme les autres. Si on souhaite lutter contre l'homogénéisation culturelle dans le monde, il faut protéger ceux qui sont à la base de cette création, a dit M. Lacombe. On est un peu le canari dans la mine, croit pour sa part Mme Cantoyani. Il y a une menace qui s'en vient aujourd'hui et c'est les artistes que ça frappe en premier. Mais demain, est-ce que ce sera les journalistes, les professeurs? Jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'on a eu une conversation sociale pour décider quelle place on veut donner à cette technologie dans notre avenir commun? C'était « Les travailleurs culturels d'ici réclament des protections contre l'IA », un texte de Roxane Léouzon paru le 9 juin 2025 dans Le Devoir.
Louis Dugal, La philosophie décomplexée. Un texte de Vicky Sanfasson, paru le 21 octobre 2024 dans les libraires. On n'associe pas nécessairement la philosophie à un sujet polarisant. Et pourtant, chacun a une opinion étonnamment étoffée et bien tranchée sur le sujet. La philosophie est source de bien des maux de tête ou est le point de départ d'une longue histoire d'amour. Certains d'entre nous la subissent, alors que d'autres en mangent. Pas étonnant que les ados ne savent plus trop sur quel pied danser lorsqu'ils entrent dans leur cours de philosophie 101, les yeux déjà cernés par des cauchemars de dissertations interminables. Et si l'on prenait collectivement un grand respire et que l'on trouvait un moyen de démystifier la philosophie à hauteur d'ado pour éviter que cette matière se transforme en traumatisme générationnel. Déjà, à la question « Est-ce qu'un adolescent philosophe est une chimère ?», Louis Dugal, auteur d'un ovni littéraire irrésistible intitulé « Réfléchir pour mourir moins cave, 35 questions philosophiques à se mettre sous la dent », publié aux éditions de La Bagnole, répond à la négative en convoquant les enseignements d'Aristote et de l'Ultimate Frisbee. Selon Aristote, on a des vertus, des capacités, qui demandent à s'exprimer, à s'activer, à se réaliser. On peut passer de l'état de potentiel à l'état de choses concrètes. Si ces choses ne s'expriment pas, elles meurent et deviennent des poids. C'est un peu comme lorsque tu ne fais pas d'activité physique et que tu ne files pas. Tu ne travailles pas sur le symptôme, donc apprends à utiliser ton corps. Sors dehors et va courir après un frisbee. Ça va te faire du bien. Il y a toutes sortes de manières de bouger, comme il y a toutes sortes de manières de faire de la philosophie qui sont valables. faut pas dramatiser la philosophie. Faisons ça comme quelque chose de naturel qui fait du bien et qui réveille quelque chose qui existe déjà à l'intérieur du monde, ado ou pas. Dissimulé sous ce titre accrocheur, se dévoilent 35 courts dialogues philosophiques, menés de main de maître par mon oncle Louis et son adolescent intérieur, sur des sujets aussi variés que pertinents. Le temps, le bonheur, la crise climatique, la fin du monde, la démocratie, etc. Les amateurs de la chronique philosophique du magazine Curium reconnaîtront cette même recette gagnante qui mélange habilement théorie philosophique et pop culture, où les fausses idoles de la pensée nietzschéenne croisent Bob le bricoleur et où un mème du Seigneur des Anneaux donne à réfléchir sur comment faire les bons choix dans la vie. Et quoi dire de la mise en page, sinon qu'elle est aussi éclatée que son contenu? En effet, chaque double page colorée fait serpenter le lecteur dans sa réflexion, lui donnant l'impression d'être propulsé dans un livre dont vous êtes le philosophe. Court, punché et dynamique, le format de ce recueil a assurément de quoi plaire au lectorat qui, confortablement installé dans sa caverne, n'a pas nécessairement l'endurance requise pour lire les quelques 800 pages de la critique de la raison pure de Kant. Mais je vous entends penser. La vraie philosophie n'est pas matière à rigolade. Ne tombez pas dans le même panneau que celui des Athéniens qui ont condamné Socrate parce qu'ils n'ont pas su décerner la sagesse sous son masque de candeur. Par-delà l'autodérision et les blagues de Game of Thrones, l'auteur recentre la philosophie sur sa base la plus fondamentale. La question amorce ses fondements de chaque dialogue philosophique. Les 35 thématiques de ce recueil émergent des réflexions d'adolescents qui ont pris soin d'écrire leurs questions à l'auteur. Il est frappant de constater que leurs préoccupations philosophiques sont bien plus concrètes que ce que l'on pourrait associer habituellement à une discipline que plusieurs jugent abstraite. En effet, l'adolescent s'interroge sur ses relations avec ses amis, sur sa réussite scolaire, sur sa propre fin et sur celle du monde. Pourtant, au cœur de ses réflexions de tous les jours, germe la graine du questionnement philosophique. Pourquoi? Parce qu'une question se construit comme une tour de Lego, où le philosophe perçoit chaque bloc de plastique comme un concept différent à examiner tel que la volonté, la passion, le beau, la liberté, etc. Ces concepts, rappelle l'auteur, ne sont pas des objets tangibles, mais bien des catégories qu'on utilise pour regrouper, catégoriser et comprendre le monde qui nous entoure. Les concepts existent dans l'espace public. On les utilise pour prendre des décisions. Ils nous rendent anxieux et ils ont un effet sur notre vie. Ben, on peut essayer de les comprendre. C'est juste ça que ça fait, la philo. Bien évidemment, ce défrichage du réel ne se fait pas en solo. Ce qui est important, c'est la question que tu te poses et le travail que tu fais pour comprendre cette question avec les gens qui se la posent aussi. Ce travail d'éclaircissement, ou ce que Socrate définit dans le « tête », comme le dialogue de l'âme avec elle-même, est la base même des discussions entre mon oncle Louis et son ado questionneur. En effet, chaque question posée dans « Réfléchir pour mourir moins cave » déstabilise les préjugés et force les deux parties à se rééquilibrer en peaufinant leur compréhension mutuelle des concepts contenus dans la question initiale. Attention tout de même à ne pas se laisser prendre au piège. La philosophie n'a pas réponse à tout. La science, l'art et toutes autres disciplines connexes doivent être convoquées à la réflexion afin de clarifier les concepts abstraits et ainsi pouvoir les appliquer concrètement et efficacement au quotidien. Et l'humour dans tout ça? Contrairement à la croyance populaire, les philosophes ne sont pas contre quelques blagues bien placées. Simplement, la philosophie sait traiter l'humour avec sérieux. Pour être capable de remettre en question les concepts et de les explorer, il faut que tu lâches prise. Il y a, à la base, en philo, une disposition, une vertu qui te demande de ne pas t'attacher à toi-même. Et l'humour est une très bonne manière de se déprendre de soi-même. L'humour, ça casse, et ça détend ce qui doit être détendu pour qu'il y ait un véritable travail philosophique. Et puis, il suffit de se plonger dans les dialogues platoniciens et de lire quelques boutades bien senties que Socrate lance à la tête des dirigeants d'Athènes pour comprendre que le mariage entre humour et philosophie ne date pas d'hier. Finalement, parce que tout travail mérite d'être récompensé, qu'en est-il des réponses à chacune des questions posées dans ce recueil? Le titre de l'ouvrage vend la mèche. Il s'agit de 35 questions philosophiques à se mettre sous la dent et non pas de 35 réponses définitives pour flasher au prochain party de famille. La dialectique est, par essence, un art de l'exploration. Et bien qu'il existe des réponses aux problématiques exposées, certaines plus cohérentes que d'autres, elles existent pour être remises en question. Mais alors, si l'auteur n'offre pas la réponse, qu'offre-t-il en échange aux valeureux lecteurs qui s'aventureront dans son recueil de philosophie? Ce que je veux offrir aux lecteurs, c'est qu'ils puissent passer un bon moment à faire de la philosophie. De la même manière que lorsque je vais au frisbee, je veux juste être avec du monde smart qui me lance le frisbee et à qui je lance le frisbee. C'est une sorte de dialogue, finalement. En plus de passer un bon moment, vous ressortirez galvanisé par votre lecture de réfléchir pour mourir moins cave. Avec ce bon dosage d'humour et de théorie philosophique à la portée de tous, ce recueil a de quoi réconcilier tous les lecteurs avec la philosophie. Lisez quelques pages de votre choix entre deux parties de Mario Kart et vous verrez. Philosopher, ça fait un bien fou. C'était Louis Dugal, La philosophie décomplexée, un texte de Vicky Sans Façon, paru le 21 octobre 2024 dans Les Libraires.